je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez l'oiseté !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes bien à l'écoute du 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. Avec ce soir, une émission spéciale de Montaigne Was a Thug, l'émission culturelle de Radio Canu. Une émission dédiée au film Merci Patron qui va sortir demain, mercredi 24 février. Merci Patron, avec à la fin un point d'exclamation. Et je vais vous dire, chers auditeurs, et cela sans aucune petite pédanterie littéraire pompeuse et plutocrate, que ce point d'exclamation est primordial dans la compréhension du film. Parce que ce film est un cri de joie, un cri de rage et de colère, un cri à un coup de poing balancé dans la face de l'oligarchie, dans la gueule des grands patrons, dans la rate du capital. Merci Patron, c'est l'histoire d'une famille d'ouvriers textiles, Serge et Jocelyne Clure, licencié par Bernard Arnault, première fortune de France, patron de l'entreprise de luxe LVMH. Licencié, les Clure se retrouvent donc à survivre avec 400 euros par mois et finissent par devoir vendre leur maison. C'est là que surgit notre réalisateur François Ruffin, rédacteur en chef du journal Fakir, qui invente une combine, une arnaque, pour faire cracher son bif à Bernard Arnault. Le truc, c'est que ça marche. Oui, ça marche, il a peur le Bernard, il tremble. Et sa petite frousse d'aimable PDG, elle nous donne des ailes. Elle nous donne envie de taper du poing sur la table, de se rassembler pour s'unir. Comme cet après-midi, à la Bourse du Travail, à Paris, avec les Fakiriens, ou ce soir, à Radio Canu. Alors voilà, d'entrée, je m'excuse auprès de François Ruffin. Il le dit dans l'interview qu'on va entendre tout à l'heure, son film n'est pas un film pédago. Un film de discours. C'est un film qui se vit. Et moi, j'ai fait une interview de sale petit nazi. J'ai coupé, découpé, recollé comme un bâtard. J'ai viré mes questions et j'ai mis des bouts de film à la place pour masquer mon crime. Mais tout ça dans un but noble. Hein. Bien sûr. Celui de montrer que ce que j'ai retenu de cette discussion. De montrer que les puissants, et là je suis sérieux, on rigole pas, ont peut-être juste du mal à nous comprendre. Et que le seul moyen pour qu'ils s'intéressent à nous, c'est l'action. Alors peut-être que les coups d'éclat comme les montres Merci Patron ne suffiront pas à réveiller Bernard Arnault. Mais sur nous, petits bourgeois, classe moyenne, classe populaire, ces actions peuvent avoir des effets. Et notamment celui de nous rassembler pour être, par la suite, à mener notre tour, à mener de nouvelles actions. Alors le documentaire, l'interview que je vais vous présenter ce soir est inédite et elle sera suivie d'un débat en compagnie des chers chroniqueurs de la radio et de Pierre Beneteau, un fakirien sans peur et sans reproche. Et voilà, je vais la lancer tout de suite et les réactions viendront plus tard.
Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Il y a bien sûr le titre choc du journal Libération, casse-toi, riche con.
Ça suffit, ces gens sont des parasites, voilà ce qu'ils sont.
Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises, de les diviser en morceaux.
Je pense qu'il aurait dû bien mesurer ce que signifiait demander une autre nationalité.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois,
il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Pour le scénario, en effet, moi, je suis parti sur une trame où je revais le t-shirt que je porte en ce moment, qui est I Love Bernard, où je pense que malgré son exil fiscal en Belgique, malgré un certain nombre de licenciements et puis tout ça, il faut réhabiliter Bernard Arnault, il faut réhabiliter un chef d'entreprise qui réussit dans notre pays. Et donc, je me suis muni de la casquette I Love Bernard, du t-shirt I Love Bernard, du camion I Love Bernard, pour aller rencontrer les gens qui en disaient du mal et les convaincre qu'on pouvait parvenir à une réconciliation, que j'arriverais à faire rétablir un vrai dialogue social entre la France d'en bas et la France d'en haut, et que voilà, on pouvait renouer les liens un peu cassés entre Bernard Arnault et ses anciens salariés, quoi.
Quand on a vendu, quand on a... Moi, je me rappelle, j'étais dire à mon directeur, si vous voulez encore avoir des suicides, eh ben vous mettez les gens à la porte. Il y a un des frères Prouvot qui s'est suicidé, un des jumeaux Prouvot. Je lui ai dit, si vous voulez avoir le deuxième qui se suicide, eh ben continuez à les foutre à la porte.
Je pense que ce qui manque dans tout ça, vous savez, c'est le dialogue. Il suffirait que, bon, ça fait 30 ans que vous n'avez pas eu l'occasion de discuter à nouveau avec Bernard Arnault, vous l'avez rencontré une fois, comme ça, dans un bureau, mais vous auriez l'occasion de vraiment dialoguer avec lui, de vous expliquer avec lui. Je pense que ça arrondirait les angles, vous comprendriez mieux.
Faut que je lui demande s'il a eu conscience d'avoir mis ces gens dans la misère, là. C'est ça que je lui demande.
Les puissants, ce sont comme des géants qui traversent une pelouse. Quand on traverse une pelouse, on ne se rend pas compte qu'on marche sur des fourmis. L'ordre social, c'est ça. Ce sont des géants qui écrasent des fourmis et qui ne se rendent même pas compte du mal qu'ils produisent et qui font tout pour ne pas avoir à voir le mal qu'ils produisent. Le système social, il est construit de telle manière que si toi, tu avais directement allé abattre ton porc pour bouffer ta tranche de porc, tu en boufferais beaucoup moins du porc. Et bien de la même manière, si Bernard Arnault il devait faire des entretiens individuels de licenciement à chacune des personnes dont il bouleversait la vie, il serait peut-être un peu moins réjoui, comme on le voit dans le film, d'avoir réussi en quelques mois à produire 8000 licenciements. Tu vois. Et donc il y a tout un système social qui est fait pour éloigner l'image du crime de son auteur. Et donc voilà, c'est quoi? Ça s'appelle de la communication, entre autres. La communication, c'est de l'anticommunication. C'est tout est fait pour que l'image, la réalité, soit éloignée de Bernard Arnault. Il y a toute une série d'intermédiaires comme ça qui lui permet d'éviter de savoir ce qui s'est produit à Flics Secours ou ce qui s'est produit à Poix du Nord une fois qu'il a choisi d'enfermer les entreprises, quoi.
On va voir le shérif aujourd'hui. Dans Robin des Bois, il y a un shérif. Et bien aujourd'hui, papa, il va voir le shérif.
Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois?
Pour prendre l'argent et pour le donner aux pauvres.
Et qu'est-ce que nous, on va faire alors? Tu crois, qu'est-ce qu'on va essayer de faire?
On va essayer de prendre l'argent et de mettre l'argent aux pauvres.
Je m'inscris dans une tradition et je pense que la presse en général... Celle que j'aime devrait s'inscrire dans cette tradition-là, qui est une tradition de contre-pouvoir, qui est une tradition de porter le fer dans la plaie. Et il s'agit pas d'aller dénoncer ceux qui sont déjà faibles, mais c'est d'aller s'attaquer aux puissants. Libé s'en est beaucoup voulu d'avoir fait ça à une casse-toi riche con, parce que il y a eu la suppression des budgets publicitaires par le groupe LVMH et même Mercedes. Par solidarité avec Bernard Arnault, a décidé de couper ses crédits publicitaires à Libération. Donc on voit bien une démarche d'insolence qui auparavant était l'ordinaire de Libération. Je parle dans les années 70, aller heurter les riches, aller les dénoncer, tout ça, c'était leur ordinaire. Là, ça leur est arrivé une fois ces dernières années, et c'est la seule fois où ça leur est arrivé. Nicolas Demorand, qui était à l'époque rédac-chef de Libération, a dit non, on n'aurait jamais dû faire ça, j'en ai pas eu connaissance, c'est pas normal, ça leur a coûté, je crois, plusieurs millions d'euros. Donc on voit bien comment s'exerce la censure. donc sur une affaire qui était pourtant une affaire qui, eux, n'avaient pas révélée, qui était une affaire connue, quoi. Mais enfin, comment s'exerce la censure ? C'est-à-dire par la publicité. Bernard Arnault, il tient des médias directement, Le Parisien, Les Échos, et Les Échos avec son salarié Dominique Seux, qui intervient tous les matins pour nous dire comment doit fonctionner l'économie sur France Inter. C'est quand même significatif que celui qui est la voix de l'économie sur France Inter, et qui tous les matins nous explique comment le MEDEF a raison de nous vouloir flexibiliser davantage, s'assoit un salarié du quotidien patronal, propriété de la première fortune de France. Donc, je veux dire, là, on a quelque chose qui, normalement, devrait nous apparaître complètement scandaleux. Et voilà comment sont tenus les médias en général par le groupe LVMH, c'est-à-dire par la publicité. C'est un très gros annonceur. Et quand il y a des dossiers qui risquent de paraître, et ben, des fois, les médias des journaux y renoncent. Et on fait bien attention de ne pas égratigner ceux qui pourraient être les... Qui paye l'orchestre choisit la musique. Donc celui qui paye l'orchestre, là, c'est ceux qui prennent de la pub. Mais ils choisissent la musique. La petite musique qui nous est discernée, c'est la petite musique libérale, quoi.
Grâce à nous, on a fait sortir ce qu'il y a de meilleur en Bernard Arnault. L'humain a un peu fait taire l'homme d'affaires en lui. Tous ensemble, nous pouvons aider Bernard Arnault à redonner un sens à sa vie.
Exactement.
Il faut qu'on soit dans cette démarche d'accompagnement d'une transformation spirituelle de Bernard Arnault. Merci Bernard. Quel plaisir de t'avoir caroté. On est heureux comme des fous.
Merci Bernard. Merci Bernard.
Quand on fait un petit journal comme Fakir et qu'on a pour aspiration de transformer l'ordre social, on sait que c'est pas possible. Je pouvais faire des émissions à la base, si j'y suis, il y avait 700 000 auditeurs. Dedans, je pouvais me dire, il y a des syndicalistes, il y a des députés, il y a des dirigeants politiques, il y a tout ça. Ce que je vais raconter à l'antenne, ça va avoir un effet sur les réels, il y a des gens qui vont s'en saisir. Quand je fais le journal Fakir, avec mes 15 000 lecteurs, ce qui est déjà pas mal, mais enfin, et puis je ne suis pas lu par l'oligarchie ou bien par les dirigeants même de la gauche de notre pays, tu vois, je ne peux pas me dire, ah bah tiens, les gens qui vont lire ça, ils vont transformer l'ordre des choses. Donc ça veut dire que je suis condamné à une forme, dans bien des dossiers, à une forme de service après-vente, c'est-à-dire, ou de service après-information. C'est-à-dire que livrer l'information ne suffit pas à transformer les choses. Donc, je suis condamné à faire autre chose, c'est-à-dire à passer à l'action. À partir de l'information que j'ai, de proposer seul à mes camarades de Fakir, à mes abonnés, à nos lecteurs, enfin, ça dépend de qui on a besoin, mais de proposer derrière une action. Alors, je l'ai fait sur des accidents du travail, je l'ai fait face au groupe Casino, je l'ai fait sur un certain nombre de trucs, et là, en l'occurrence, je mets ce savoir-faire de construire des actions au service des clures, information et action. Ce avec quoi peuvent sortir les gens, c'est de se dire que on est plus fort qu'on ne le pense, et ils sont plus fragiles qu'on ne le croit. Et que, en effet, cette machine, tout petit comparé, il y a moyen de la secouer. Et ça, ça, voilà, je pense que c'est l'un des messages. Encore une fois, ce n'est pas un message qui est posé comme tel dans le film, mais c'est l'une des conclusions, je pense, auxquelles un certain nombre de spectateurs peuvent parvenir. Et donc, ça a quelque chose, en effet, dans le contexte morose, où on va te lister tout ce qui va pas, l'état d'urgence, tu vois, la monnaie, le chômage, machin, les déficits, le Parti socialiste qui est de droite, la droite qui est de droite, l'extrême droite qui est méchante, la note gauche qui est bête comme ses pieds. Bon, dans ce contexte morose, je pense qu'en effet, ce message, il a quelque chose de réenthousiasmant, quoi. Jocelyne et Serge Clure sont quand même des gens qui, dès le départ, il reste quelque chose qui est actif en eux. C'est pas des gens qui, malgré les années de chômage, malgré des séries de difficultés, malgré les dettes dont ils sont criblés, malgré tout, ce sont pas des gens qui sont abattus par la vie. Ce sont des gens qui se tiennent encore debout, qui continuent à aller chercher du boulot à droite à gauche, qui font marcher leur bagnole. Enfin, voilà, ils continuent. Alors ça tourne en rond, il y a rien qui marche. Jamais ils obtiennent le moindre contrat. Même pour leur fils, c'est compliqué. Enfin, on est dans une situation qui est complètement désespérante. Mais en même temps, ils continuent à se bagarrer à l'intérieur de ça, quand même. Et moi, je leur propose de se bagarrer dans une autre direction, en leur apportant les armes que moi je connais, c'est-à-dire qui est Bernard Arnault, de quoi il peut avoir peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rétablir, tu comprends ? Et finalement, toute l'énergie qu'ils mettaient à tourner en rond, à aller déposer des CV à droite à gauche, et ça n'aboutissait jamais sur rien, ils vont mettre la même énergie dans le film. Et on voit visiblement Serge Clure, quand on lui demande de s'exprimer devant la caméra, qui il joue pas, il met ses tripes sur la table et il raconte quel est son merdier et il en appelle à qui peut le sauver. Si c'est moi qui le sauve, et ben tant mieux. Si c'est Bernard Arnault qui le sauve, et ben tant mieux. Lui, il demande à pouvoir sortir de cette situation désespérante. Mais on voit qu'au fur et à mesure du film, il y a des changements, notamment chez Jocelyne, Madame Clure, qui elle reprend son destin en main. Et le reprend par le discours, et le reprend en jouant. Et je pense que Jocelyne mériterait un prix d'interprétation. D'abord, elle joue beaucoup mieux que moi, et je pense qu'elle mérite un César pour son rôle dans ce film. Elle fait preuve d'un sang-froid dans des situations qui sont quand même des situations extrêmement compliquées. Elle fait preuve d'un sang-froid. Et ça veut dire quelque chose quand même humainement. Ça veut dire que... Moi, c'est une confiance dans l'humanité que je tends à avoir, mais que chez toutes les personnes qu'on croise, il y a une étincelle, il reste quelque chose qui brille. Il faut s'appuyer dessus pour que ça s'embrase un peu, quoi. Et puis, il faut souffler parfois fort dessus et tout ça. Mais je pense que peu de personnes auraient parié qu'il y avait toutes ces réserves d'énergie chez Jocelyne et Serge Clure en entrant chez elles, quoi. Et voilà, c'est un pari qui est un pari réussi. La deuxième chose à dire, c'est qu'il y a un personnage qui n'est pas un personnage central, qui apparaît à toutes les scènes de ce film, mais qui est un personnage de médiateur et qui est un personnage absolument essentiel, c'est celui de Marie-Hélène Bourlard. Mon film est dédié à toutes les Marie-Hélène, donc Marie-Hélène qui était déléguée CGT de son entreprise textile, qui a fermé à la suite d'une demande de Bernard Arnault de délocalisation en Pologne, puis en Bulgarie, puis peut-être en Grèce, quoi. Mais donc Marie-Hélène, qui est celle qui rend ce film possible. Pourquoi ? Parce que j'ai mené plein d'actions avec elle, donc j'ai sa confiance, et elle a la confiance des Clure. Et ce qui arrive rarement, c'est-à-dire que les producteurs de biens culturels, de journaux, de livres, d'émissions de radio, et ainsi de suite, se retrouvent directement au contact des classes populaires. C'est des gens dans l'armée de cette France invisible, c'est très rare. Et c'est rare, et là, c'est rendu possible par l'intervention de Marie-Hélène, qui nous sert de médiateur et qui nous permet d'aller les voir. Et en plus, Marie-Hélène, ensuite, nous permet de gagner. Parce que ce qui fait peur au groupe LVMH, c'est la jonction de l'immense journal Fakir et de la CGT. C'est l'alliance des deux. Vous n'allez pas faire un barbecue avec Fakir et la CGT. Donc voilà, c'est l'ordre qui est donné. C'est la jonction des deux. Et Marie-Hélène est celle qui, évidemment, à l'intérieur du film, incarne la CGT, quoi. Et ça, c'est peut-être un truc, encore une fois, qui n'est pas développé, mais je pense que c'est quelque chose qui est beau à voir, potentiellement. C'est la jonction des classes populaires dans notre film et de ce que moi j'appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, dont je suis, c'est-à-dire des producteurs de films, de livres, et cette jonction avec les Clure, qui sont des ouvriers licenciés chez CCE, avec Marie-Hélène Bourlard, ancienne déléguée CGT, et on voit cette jonction se faire à l'image, et on voit cette jonction se faire contre l'oligarchie. Donc on a une lutte des classes là en action, mais c'est sûr que s'il y a une division entre la petite bourgeoisie intellectuelle et les classes populaires, on ne peut pas mettre à mal l'oligarchie. La seule manière de mettre à mal l'oligarchie, de lui faire peur, c'est la jonction de classes. Et donc voilà, là, le film nous offre une heure et demie, une heure et demie seulement, mais une heure et demie déjà, où cette jonction de classe s'opère et où l'oligarchie tremble. On est comme au carnaval, la société est cul par-dessus tête. Ceux qui sont d'habitude manipulés se retrouvent manipulateurs, et ceux qui sont d'habitude manipulateurs se retrouvent manipulés, quoi.
Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors là dit, les gentlemen.
Dans le contexte actuel, les riches, ils aiment pas bien qu'on bête sur la place publique, et puis vous auriez. Peut-être, pas mal, ça aurait peut-être pas marché, mais ça avait des chances dans le contexte avec la gauche au pouvoir, ça avait une chance. Si vous voulez, c'est l'image, vous me faites marrer. Donc. Si vous avez tenté ça, c'est bien parce que vous savez que quelqu'un n'aime pas qu'on attaque son image. Quand on est dans les défilés, les machins, les trucs comme ça, c'est l'image. Chaque lettre est une balle. Et il y en avait une qui aurait très bien pu faire mouche. Parce que est-ce que Fakir, ils auraient pris votre dossier? Peut-être, parce qu'ils sont venus à notre Assemblée Générale essayer de la perturber. Peut-être à Fakir, si elle était arrivée, il serait dit, putain, il attaque les machins, on va reprendre son affaire.
Ce qui vous fait plus peur dans les lettres, c'est Fakir.
Oui.
On envoie à Mélenchon, on envoie à Hollande, on envoie à tout ça.
Fakir.
On envoie au monde.
Fakir.
On envoie à France.
Fakir.
Je sais pas, ça, c'est un petit truc.
Mais, regardez. C'est les minorités agissantes qui font tout.
Il y a évidemment, pour ceux qui verront la scène, une immense joie. C'est une scène qui est d'une surprise. Je pense que ça n'est jamais vu au cinéma. Je veux dire, c'est un film qui sort des sentiers battus. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film, machin et tout ça. Mais non, c'est un film qui propose des séquences qui sont absolument ahurissantes de mon point de vue. Et celle-là en fait partie. Puisque, en effet, Fakir... Cet immense journal, qui est Fakir, internationalement reconnu, fait trembler le groupe LVMH. Et la traduction est donnée quand même par l'émissaire de Bernard Arnault, qui dit « mais ce sont les minorités agissantes qui font tout ». Et je pense que c'est un film qui, c'est un film qui est tout sauf dans le discours, qui est tout sauf dans la pédagogie. J'ai pas mis un économiste pour nous expliquer comment Bernard Arnault a fait fortune. J'ai pas mis un anthropologue pour nous expliquer qu'est-ce que le pouvoir peut produire sur les sociétés. Enfin, tu comprends, j'ai pas mis des profs de tout. Je pense que c'est un film qui ouvre des portes. Et chaque spectateur se fait ensuite son film. On tire ensuite ses conclusions. Mais néanmoins, il y a quelqu'un dans le film qui nous propose ça. Ce sont les minorités agissantes qui font tout. C'est l'un de nos adversaires qui le dit. Moi, je pense que c'est en partie... Je veux dire que les minorités agissantes... Je pense qu'il est excessif, il est trop révolutionnaire. C'est un commissaire, c'est un ancien commissaire des renseignements généraux qui nous dit ça, passé au service de LVMH, qui nous dit que ce sont les minorités agissantes qui sont tout. On croirait là qu'il a lu Bourdieu, quoi. Mais ce que je pense de cette phrase, c'est qu'il est trop révolutionnaire, notre commissaire qui protège l'ordre. Je veux dire, les minorités agissantes, elles peuvent faire, mais si elles arrivent à s'appuyer sur quelque chose qui est plus massif, si elles arrivent à s'appuyer sur les classes populaires. Moi, je dis que je suis appartenant à une petite bourgeoisie intellectuelle, il ne faut pas s'en flageller. Ça veut dire qu'on dispose de connaissances, de savoir. Tu vois, la première intervention de l'Assemblée Générale, en 2007, donc ça remonte, hein, c'était pas pour le film, c'était pour la radio, mais c'est moi qui l'ai suggéré à Marie-Hélène Bourlard, parce qu'elle, elle s'attaquait à son patron direct, le patron de CCE, qui s'appelle Lucien Devaux. Je pense que personne ne connaît Lucien Devaux. Elle ne cessait de s'attaquer à lui. Je lui dis, mais regarde au-dessus, qu'est-ce qui donne l'ordre? C'est le groupe LVMH. Le groupe LVMH, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est la première fortune de France. Ils ont une assemblée générale. Il se trouve que si on prend une action dans une assemblée générale, une action LVMH, on peut entrer dans l'assemblée générale. Normalement, ils sont obligés de nous donner la parole. Donc, dans ce cadre-là, si tu veux te confronter directement à celui qui va faire ton malheur, c'est là-bas que tu peux le faire. Et tu peux le faire nulle part ailleurs. J'étais avec les livres que j'avais lus, avec les personnes que j'avais rencontrées, y compris des petits actionnaires, j'étais celui qui permettait de rendre ça possible.
Avec les copains de Fakir, on s'est préparé pour l'AG. On a tenu des tas de réunions clandestines. On a dégoté le plan du carrousel du Louvre, des alarmes incendies, même des souterrains. On avait des codes.
Les fourrures sont doublées. Je répète, les fourrures sont doublées.
On s'est répartis en sections, avec des lieutenants à chaque groupe. On avait synchronisé nos montres, planifié la journée, minute par minute. On avait élaboré des tactiques formidables. De quoi fluidifier le dialogue social.
Il y a un travail sur la forme dans ce film, et souvent militant, ça rime avec chiant. Il y a tout un travail qui est fait, que j'essaye de faire dans Fakir, et c'est pas forcément réussi tous les jours, mais que j'essaye de faire, que je réussis, je pense, je suis convaincu de le réussir à travers ce film, c'est de dire, oui, je me reconnais comme journaliste engagé, mais ça veut pas dire parce que je suis militant, je fais chiant, au contraire, je veux faire de l'anti-chiant, tu vois. Et donc il y a tout un travail sur de réflexion sur la forme, sur comment je fais pour, qu'on ne tombe pas dans le discours pédago, enfin, et ainsi de suite. Donc là, il y a tout un travail là-dessus. Je ne suis pas que militant, j'aime beaucoup jouer, y compris jouer des personnages. Même quand je faisais des émissions à la Bastille, j'y suis, j'aime bien aller partir en Belgique et faire comme si j'étais un millionnaire ou bien le gendre d'un millionnaire qui avait besoin de s'installer en Belgique. C'est toujours, y a toujours quelque chose de jouissif à incarner des personnages. Donc voilà, là, je m'amuse avec ça, je fais un film, donc ça veut dire que je m'applique à faire quand même de la mise en scène et à chaque fois que je tourne une séquence, à me demander comment je vais la monter derrière et comment ça va être drôle pour le spectateur. Je veux dire, ce film est quand même aussi une farce. C'est une farce sociale, mais c'est une farce. Et donc quand je viens et que je mets un chapeau mexicain, c'est pour produire quelque chose à l'image. Évidemment... on est là avec le secrétaire général du groupe LVMH. Le secrétaire général, donc, c'est-à-dire, nous, on disait le numéro 2, c'est pas tout à fait le numéro 2, mais enfin, l'un des très hauts dirigeants du premier groupe de luxe au monde. Et c'est sûr que jamais l'un des dirigeants, qui s'appelle jamais, justement, de ce groupe de luxe, n'a eu à rencontrer un bonhomme avec un chapeau mexicain qui lui distribue juste des jetons de poker. Mais c'est le carnaval. On ne les prend pas au sérieux. Il y a plusieurs méthodes pour dégonfler la baudruche des riches, pour dire que cette oligarchie, il faut la déboulonner. La première est la plus sympathique. Il ne faut sans doute pas s'arrêter là, mais la première est la plus sympathique, c'est de dire on ne vous prend pas au sérieux. Vous êtes des guignols. Et nous sommes déguisés en guignols aussi, parce que finalement, au fond, on est peut-être plus sérieux que vous, quoi.
J'espère que les révolutionnaires se calmeront pour l'année prochaine. On verra.
Vous êtes toujours à l'écoute du 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous venez d'entendre une interview, une sorte de documentaire, un reportage, vous appelez comme ça, comme vous voulez, de François Ruffin, donc rédacteur en chef du journal Fakir et réalisateur de ce film qui sort demain et nommé Merci Patron et dont il vient de nous parler. Alors ce soir, voilà, nous rentrons dans la deuxième partie de l'émission où nous allons mener un débat avec Pierre Beneteau, fakirien. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Guillaume.
Bertrand Fibien, chroniqueur, voilà, qui est là aujourd'hui, qui a vu le film, qui vient répéter son rôle, qui est là au top, là, qui est précis. Et un retour d'un autre chroniqueur, le célèbre Paul Bismuth, qui est là. Et qui, lui, n'a pas vu le film, et voilà, avec sa candeur et sa pertinence habituelle, il va pouvoir animer le débat, mais évidemment, nos questions vont se tourner surtout vers Pierre, qui, oui, bien sûr, Pierre, qui est le fakirien aujourd'hui, c'est lui qui a, voilà, les pieds dans l'action, c'est lui qui est là. Alors, Pierre, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un fakirien, tout simplement?
Un fakirien, c'est quelqu'un qui est amoureux de Fakir, du journal Fakir.
C'est-à-dire un abonné
puis qui, de temps en temps, achète des tchio fakir, des 4 pages, pour les distribuer en manif.
C'est ça, donc en fait, t'as un double rôle, t'es à la fois, voilà, t'es receveur, tu reçois fakir et tu le distribues.
Ah bah oui, bah quand vous aurez vu le film Merci Patron, c'est quelque chose qui vient spontanément, hein, l'envie de donner aux autres, quoi.
Et toi, ça t'est venu avant Merci Patron, cette envie-là?
Ah bah bien sûr, oui.
Ouais, ça fait longtemps que tu distribues, que tu...
À ma petite échelle, hein, mais oui, les Tchio Fakir, il y en a des excellents, comme le Hold Up Tranquille, qui est sorti il y a déjà 5-6 ans et qui déjà dénonce les inégalités qui s'accroissent au niveau des revenus, quoi, en France notamment.
Et c'est quelque chose, donc, les Tchio Fakir dont tu parles, c'est quelque chose qui se distribue en manif, voilà, dans les lieux d'action sociale, en fait.
Exactement, ouais. Alors, on n'est pas toujours en phase avec l'action, mais. Le dernier là, c'est la révolte des betteraves. Et moi, je l'ai reçu là avec des affiches pour le film de Merci Patron.
C'est pour un événement qui va avoir lieu le 12 mars, c'est ça ?
Voilà, exactement, le 12 mars. Mais ça se passe en Picardie. Voilà. Donc ils espèrent faire venir des Parisiens, dont Frédéric Lordon, qui est un grand supporter du film.
Oui, c'était le philosophe, économiste à la base, et oui. Qui devient philosophe.
Ah bah, il est très influencé par Spinoza, oui.
C'est ça. Et donc voilà, donc c'est ça. Il veut, voilà, Fakir veut tenter par cet événement dont vous parlez, la fête des betteraves. Là,
oui, je crois. Oui. La révolte des betteraves.
La révolte. Enfin, voilà, c'est ça. J'avais plus le premier mot. Ah voilà, à fédérer en Picardie. Par exemple, vous allez aller en. Toi, tu vas aller en Picardie.
J'y pense, mais c'est pas certain que j'y aille.
Ah oui. Voilà, parce que ça fait loin. Ça...
Voilà. Mais cette révolte des betteraves, c'est en réaction à ce qui se passe avec les goudières.
Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que Fakir, c'est un journal qui a la spécificité de s'ancrer, voilà, vraiment dans les luttes sociales. Et on l'entend dans l'interview. Je sais pas si cher chroniqueur vous l'avez noté. François Ruffin dit qu'il, comme il est un petit journal, qu'il a 7500 abonnés, je crois, il vend 15 000 fakirs, je crois, il a moitié moins d'abonnés, je sais plus le chiffre exact, mais voilà. Comme il est un petit journal, il est obligé d'assurer ce service après-vente, donc il dit service après-information, qui est l'action sociale. Et c'est aussi ce qui fait la force de son journal, j'ai l'impression. Et alors, on va parler du film quand même, parce que c'est pour ça qu'on était parti. C'est quoi qui vous a donné l'envie d'aller voir le film ? C'est votre journal ? C'est le fait que votre journal dit on va faire un film, ça suffit à vous dire je vais aller le voir directement ? Ou il y a d'autres choses ?
Alors, oui, ça suffit. Et en même temps, ça fait quelques temps que Fakir et dont Ruffin hein, avaient envie de faire de l'image. Sur leur site Fakir, ils ont quelques vidéos qui tournent depuis un an ou deux maintenant. Donc quelques-unes sur la dette et puis une qui est terrible, j'avais envie d'en parler même si c'est pas forcément à propos, mais et une sur le plan de bataille des financiers. Il a rencontré un chef économiste avant les élections de 2012, les présidentielles, et le chef économiste dit que quel que soit le candidat qui va passer, de toute façon c'est les marchés qui auront la main, et dans le but de libéraliser le travail, quoi, de casser le CDI, de flexibiliser au maximum. Et c'est terrifiant parce qu'il nous dit, quel que soit le candidat qui passera, droite ou gauche, les marchés imposeront ça, quoi. Mmh. Et là, 5 ans après, on se dit, putain, mais...
Il avait raison.
Putain, c'est fort, quoi. Et je pense qu'il a le projet de le diffuser à nouveau, quoi, d'en faire un peu la pub, quoi.
D'accord. Donc, en fait, c'est-à-dire que ton rapport à ton journal est tellement, voilà, fusionnel presque, j'ai envie de dire. Bon, elle est un peu fort, mais t'as dit que t'étais amoureux, donc, ouais. On peut dire fusionnel. Voilà, ça fait que tu as directement eu envie de voir ce film et en plus de le partager, quoi.
Ah oui, oui. Mais, alors, moi, Ruffin, pour moi, c'est comme un ami, un petit peu comme quand on lit Camus ou Sartre, on se dit putain, mais c'est...
Parce que tu le connais bien ou juste parce que tu le lis régulièrement?
Je le connais pas du tout, hein. Voilà. On s'est croisé, t'étais là, Guillaume, on s'est croisé quand il est venu faire son avant-première au CNP, à Bellecour. Non, je le connais pas, mais voilà, il met tellement de lui dans ses interviews et en même temps, il donne tellement de place aux autres dans ses interviews qu'il retranscrit dans Fakir, que voilà, c'est quelqu'un de généreux et on peut pas ne pas tomber amoureux, quoi.
Ouais. Alors Paul Bismuth, peut-être vous, petit candide, petit premier, vous venez écouter cette interview, est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir le film déjà?
Oui, ça m'a donné envie d'aller voir le film, mais même rien que de voir la bande-annonce que j'ai pu visionner cet après-midi en me renseignant, en découvrant donc qui est François Ruffin. Mais là, j'ai des petites questions qui me sont venues comme ça mais je ne sais pas si elles sont complètement à propos, en tout cas légèrement décalées par rapport au film. C'est est-ce que finalement on peut dire que Fakir, c'est pas seulement un journal du coup, puisque il y a le désir de passer par des supports différents, Et ensuite, ma deuxième question, qui est décalée encore par rapport à la première, c'est finalement ce que vous nous dites là en nous rappelant cette anecdote donc du plan de bataille financier. Est-ce que il n'y a pas quand même un message très pessimiste sur l'idée que politiquement, quelle peut être encore l'action si politiquement il peut y en avoir une du fait que, enfin, vous dites droite et gauche, voilà, c'est même combat. Qu'est-ce qu'on peut encore faire au niveau politique? Qu'est-ce que propose Fakir au niveau politique? Est-ce que s'il propose quelque chose, parce que du coup,
ça c'est une question qu'il faudrait poser à l'équipe du journal et à François Ruffin. Je crois que c'est une question qui revient beaucoup dans les débats après projection, aux avant-premières. Et Ruffin dit que lui, sa démarche modeste, c'est de faire un premier pas. Voilà, un premier pas, c'est-à-dire de... Et ce film vraiment permet ça, quoi. C'est-à-dire que ça réenthousiasme, quoi. Vraiment, ça, c'est vraiment un remède contre la résignation, quoi. Il est fort, il est fin, il est drôle, quoi. On peut le montrer à tout le monde. N'importe qui peut aller voir ce film, qu'on soit facho, qu'on soit... tout le monde peut apprendre quelque chose de ce film et...
Et ça répond à la deuxième question de Paul Bismuth, c'est que ce film, il donne un espoir. Tu dis tout est morose, etc. Est-ce que c'est pas pessimiste de dire que droite et gauche, c'est la même chose?
Mais d'ailleurs, François Ruffin le dit, il explique que voilà, il a voulu vraiment axer aussi son film dans une dimension humoristique, enfin, humoristique, entendons-nous, c'est-à-dire qu'il fasse sourire les gens. Mais enfin, moi, je me dis quand même, enfin, si je lis un journal, si je vois une œuvre qui est engagée comme ça, comme son film, j'ai envie d'avoir un petit peu les idées claires à la fin et de me dire oui, voilà, on peut, il faut aller dans ce sens-là. Et là, comme le sens, je dirais, comme le point d'aboutissement n'existe pas encore, puisque c'est un pas qui est fait pour créer quelque chose, ben, il y a l'espoir, mais il y a en même temps l'idée, ouais, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'on va faire quelque chose?
On peut pas savoir. J'ai envie de dire, c'est prendre un risque, non?
Oui, mais prendre un risque vis-à-vis de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe sur lequel on va pouvoir s'appuyer? Enfin, je conteste pas l'idée de prendre un risque, hein, ça me va tout à fait, mais ça allait aussi dans le sens d'une autre question que j'avais à poser, mais que je pose à tout le monde, hein, c'est... Est-ce que Fakir, c'est pas aussi, j'ai envie de dire, une énième façon très positive et pleine d'espoir de voir le monde, mais une énième façon? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas plein de micro-mouvements comme ça qui existent? Et comment essayer de les fédérer aussi? Parce qu'on parle beaucoup de fédération, enfin François Ruffin parle de fédération, et je trouve ça très intéressant, ouais, au niveau des classes, enfin, et c'est apparemment ce qu'il fait effectivement dans le film. Mais comment faire aussi que tous les petits mouvements, tout s'unissent, enfin, je sais pas, oui, parce que c'est là où aussi on peut avoir un poids, c'est-à-dire de pas s'enfermer non plus en disant, moi c'est Fakir, moi c'est tel truc, moi c'est tel truc, et oui, enfin, voilà. Sans faire de compromis, c'est-à-dire se réunir, mais sans faire de compromis, parce que il y a aussi cette idée-là, souvent, et là, plus d'un point de vue politique, où les politiques vont dire, oui, mais si on s'unit entre nous, il va falloir gommer tel point, tel aspect, enfin, c'est toujours, désagréable. Enfin, on a envie de garder aussi une forme d'intégrité du projet de départ.
Vous avez quelque chose à répondre à cette question qui n'en finissait plus. Elle était très belle, très pertinente.
Je suis pas sûr d'avoir tout retenu de la question, mais Ruffin donc a vraiment envie de fédérer les gens, quoi, que les gens se rapprochent, et notamment les petits bourgeois, les classes moyennes et les classes populaires. Et je trouve que l'élan qu'il donne, c'est ça, quoi. C'est comme ça que je le vois. Si aujourd'hui j'étais pas syndiqué, bah, je me dirais, putain, bah, je vais me syndiquer, quoi. Quel que soit le syndicat, bon, à quelques exceptions près, je vais rentrer dans quelque chose qui est en train de dépérir pour y participer, puis pour le réétoffer. Quoi, ça peut être, par exemple, une réponse après ce film. Je suis spectateur, je vois ça, je me dis, bah, je vais m'investir un peu plus, quoi. Ça donne envie de se bouger. Je suis pas sûr de répondre à tes questions, là.
Si, c'est seulement, enfin, après, voilà, c'est pas un univers que je connais parce que je pense, trop jeune. Enfin, non, c'est pas une excuse du tout. C'est pas pour me donner une excuse, mais, enfin, est-ce que l'image qu'on a des syndicats aussi aujourd'hui, c'est pas une image où, enfin, ça bouge pas, qu'au niveau des représentations des syndicats, ça bouge pas? D'ailleurs, c'est peut-être ce que tu laissais entendre en disant pas tous les syndicats à quelques exceptions près, enfin. Et du coup, il y aurait cette forme de... Enfin, c'est pas une question, hein, c'est juste une réaction à ce qu'il dit. C'est, enfin, oui, se bouger, et en même temps... Ouais, il y a toujours ce côté-là. Enfin, on se demande si c'est pas vain, et on a envie de passer par d'autres systèmes. Je veux dire, c'est pas une façon de dire... c'est vain, on fait rien. Non, c'est vain, mais on a vraiment envie de rentrer dans l'action, mais de façon, j'ai envie de dire, presque violente. Enfin, c'est-à-dire, quand on voit les manifestations qu'il y a eu des taxis il y a 2 semaines environ, enfin, je veux dire, on se dit, ouais, ok, c'est du débordement, mais enfin, merde. Enfin, on a envie d'être entendu, on a envie... Et est-ce que ça peut vraiment passer encore par des syndicats enfin,
Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le moyen de fédérer, ce que vous aviez soulevé, passe par le syndicat. On a dit que c'est par le syndicat qu'on va regrouper, je sais pas, Fakir avec plein d'autres mouvements, hein, Fakir voilà sur son site, tiens à voir par la suite, hein. il a ses amis, les amis de Fakir. On a pas mal de médias indépendants, reporters, voilà, Décroissance qui est à Lyon, ça marche par copinage, mais peut-être que c'est peut-être que ce que Ruffin appelle aussi dans l'interview, peut-être la petite bourgeoisie intellectuelle, on va dire, il dit les producteurs de films, producteurs de livres, et cette alliance-là doit trouver le syndicat. Le syndicat, c'est-à-dire en gros les classes populaires. Et c'est comme ça qu'on va regrouper en fait deux mouvements qui sont pour l'instant séparés. Et c'est uniquement cette jonction qui va pouvoir amener vers la révolution. Alors, deuxième question, qui va nous rattacher au film. Est-ce que ce film, monsieur Beneteau, Pierre, vous donne envie de faire la révolution?
Oui et non. Je vous inviterai quelqu'un de plus compétent sur le sujet.
Sûrement.
Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je pense que c'est même un reproche qui sera peut-être fait à Ruffin, c'est de mettre en avant des actions violentes dans son journal. Celui de ce mois-ci, par exemple, il revient sur un ouvrage, j'ai oublié le nom de la chercheuse qui a écrit cet ouvrage, qui en fait recense 9 événements importants au début du XXe siècle, où en fait les ouvriers se sont carrément bien énervés, quoi. Mmh. Et sans représailles derrière. C'est-à-dire que ça a été reconnu comme quelque chose de normal, comme une réaction normale. En tout cas, quand on met ça en vis-à-vis avec ce que vivent les goudures aujourd'hui, on se dit, putain, mais...
Oui, aujourd'hui, où la moindre chemise arrachée, voilà.
Ou le pauvre petit directeur qui est maintenu 30 heures, voilà. Et là, ils avaient carrément saccagé les maisons des dirigeants des boîtes, quoi.
C'est un mec qui a un rapport de force qui s'est inversé, quoi.
Ouais, c'est, voilà. Et un Tchio Fakir, dont on parlait tout à l'heure, Tchio Fakir, les 4 pages, là, il y en a un, le titre, c'est « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» Oui. C'est quand même, le titre est pas anodin, quoi, au niveau du mouvement qu'on pourrait y mettre derrière, quoi.
Donc c'est quelque chose qui va lui être reproché, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, en tant que lecteur, tu reproches ou
non, c'est, je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être lui être reproché.
Par qui?
Je sais pas si.
Les médias en général, quand même. Enfin, la plupart des médias vont dire oui, mais il faut pas.
Quoi? Oui, les médias dominants. On dit, ouais.
Oui. Mais c'est pas non plus. Enfin, je crois pas que. Tu dis une média dominant.
On dit dominant, mais c'est en termes d'audience, tout simplement.
On n'est pas en train de dire non plus, faisons l'apologie de la violence. C'est pas ce qu'on dit non plus. On dit juste. Enfin.
C'est ce que tu. Peut-être que Pierre veut dire ça, hein. Je ne sais pas. Peut-être que monsieur Bertrand Fibien.
Pour revenir donc sur ce que disait monsieur Bismuth. Le fait qu'il y a dans le dernier Fakir, où il y a un courrier de lecteur où justement il y a un lecteur qui écrit en disant oui, pourquoi il y a pas d'utopie chez Fakir, et c'est que justement de la un constat peut-être pessimiste, et qui dit pourquoi
avec de l'action, enfin quand on est d'accord, c'est de l'action, mais pas où est le point d'arrivée.
Voilà, c'est ça. Et donc justement, il répond que c'est lui, il préfère faire pas à pas, etc. Donc il prend la métaphore de l'hôpital, où il dit par exemple dans un hôpital, il y a quelqu'un qui est malade, et donc du coup on lui apporte des soins petit à petit pour que pas à pas il aille mieux. Et donc l'autre lecteur aurait répondu en reprenant la métaphore de l'hôpital et en disant oui, mais en même temps l'utopie ce serait dans un hôpital la fenêtre ouverte où on entend les oiseaux gazouiller, etc. Et c'est quelque chose qui donnerait en plus envie de guérir aussi une part importante. Et donc il met quand même ça en avant dans le journal en disant quand même que il a l'air conscient de ce fait là et donc il voudrait quand même il veut aller pas à pas, mais peut-être qu'il enfin, qu'il espère trouver une utopie qu'il a peut-être pas trouvée, ou je sais pas, mais enfin, il met quand même ça en avant dans son journal lui-même, donc il est conscient de la question, quoi.
C'est-à-dire que, je sais pas, comme le Fakir est un journal qui est très ancré dans l'action sociale, peut-être que proposer une utopie, c'est aussi problématique, je sais pas. Est-ce que ça fait mauvais genre, peut-être tout simplement, hein, parce que l'utopie, c'est le délire de qui? C'est le délire des écrivains, de.
Tu vois, peut-être que ça fait.
Certaines classes, de.
Un de plus, une pas, de plus.
Pas, pardon?
Bah, peut-être que le problème, c'est que si on propose une utopie, ça fait une de plus, j'ai envie de dire. Mmh. Alors
ça,
que.
Ça, c'est votre problème, ça, une de plus. Ça.
Mais oui, parce que, enfin, oui, quelque part aussi, c'était une critique, enfin, une critique, une interrogation, et en même temps, enfin, c'est peut-être une force de dire, voilà, nous, on est dans l'action, emparez-vous-en pour faire quelque chose. Parce que sinon, c'est dire, une fois de plus, hein, oui, mais toi, tu dis ça, mais l'autre là-bas, il dit, il nous propose telle autre chose, ou il propose pareil, ou il propose telle autre chose qui, en effet, n'existe pas encore, qu'on n'a pas encore vu. Et avant tout, là, enfin, c'est plutôt l'idée d'une forme d'entraide, j'ai l'impression, entre classes, et pour que ce soit des classes différentes, peut-être aussi, qui proposent des choses, des utopies, mais ensemble, et qu'elles le proposent,
Mais de toute manière, ça passe, mais c'est évident, ça passe, et c'est évident, c'est dans la démarche aussi du journal, ça va passer par des mouvements sociaux, par des manifs, en fait. Ça va venir de la rue, le rassemblement. C'est ce qui dit, j'ai l'impression, depuis le début, et c'est ce qui se passe aussi dans le film, parce qu'on a un peu perdu de vue le film, mais c'est ça, il vient de la rue, il vient d'un acte fort, d'un choc. Quand tu le verras, ce Bismuth là, tu seras choqué. Tu vas dire, oh là là, mais c'est fou ce qui se passe. Et peut-être que ça va donner envie de bouger, de faire pas des compromis, mais des unions avec des gens voilà, à qui tu n'as pas parlé. Ça te donnera peut-être l'opportunité de le faire surtout. Peut-être que parce que l'envie tu l'as, mais tu n'as pas l'opportunité. Mais voilà, peut-être que c'est comme ça que ça va marcher. Je ne sais pas. Alors peut-être poser cette question à Monsieur Fibien là. Si t'avais Bernard Arnault en face, là, t'aurais envie de faire quoi? Après écoute de tout ça, après mieux réflexion, après.
Eh ben oui, alors c'est une question qui pose problème. Parce que, enfin, oui, voilà, donc que dire à ces gens-là? Et donc dans l'interview, on entend qu'il compare les PDG et tous les grands là, à des géants qui écraseraient des fourmis et sans le faire exprès.
C'est au début de l'interview.
En gros, ouais. Oui, au début. Et donc qui ne les verraient pas, et donc en gros, enfin. Il y aurait une sorte d'explication, en fait, si il accomplit de tels actes, il parle de crime même, je crois. Donc si on éloigne, oui, on, le crime est éloigné de la personne qui a commis le crime. Et donc, en fait, s'il continue à agir comme ça, c'est parce qu'il ne le sait pas. Et donc, en fait, on aurait une personne qui serait un peu en dehors de la réalité, qui n'aurait absolument pas conscience des conséquences de ses actes. Et, mais dans ces cas-là, donc, que dire à... Enfin, déjà, est-ce que ça, c'est le cas
C'est ce que dit.
Oui, voilà. Et donc, enfin, il a l'air d'avoir une de dire que si jamais il se rendait compte de, on lui montrait nez à nez ce qu'il faisait, il arrêterait peut-être d'être méchant.
Mais oui, il prend cet exemple. Il prend l'exemple de. Il dit si Bernard Arnault avait à faire des entretiens individuels de licenciement avec ceux qui licenciaient, peut-être qu'il licencierait pas autant.
Non, c'est juste qu'il pourrait pas. Il aurait pas le temps. Il aurait plus le temps de faire autre chose. Ben, donc du coup, mais ça l'épuiserait trop.
Il dit même pas peut-être qu'il licencierait moins. Il dit c'est sûr qu'il licencierait moins. Il prend il fait un parallèle avec la côte de porc. Il dit si toi tu devais aller tuer ton porc, tu boufferais moins de porc. Et voilà. Et donc excusez-moi monsieur. Je suis bien de vous avoir coupé.
Non, mais dans ce cas, dans cette optique-là, donc que dire à Bernard Arnault si on le voyait dans cette optique-là, on devrait justement lui dire, ah ben, regarde ce que tu fais, enfin, le confronter finalement à ce qu'il a fait. Mais est-ce que
ça suffirait?
Est-ce que ça suffirait? Et puis est-ce que si Gérard, il a vraiment des œillères comme il en a, est-ce que elles sont vraiment enlevables, ou est-ce que juste montrer la réalité en face suffirait à faire quelque chose? Donc je suis pas sûr. Donc voilà, c'est oui, vraiment un problème. Que dire à ce genre de personne?
Oui, parce qu'on est face à des psychopathes quand même là. Hein. Ouais, arriver voilà. À ce niveau-là, c'est de la maladie. Moi, je pense.
C'est justement, François Le Fun dit exactement l'inverse. Moi, quand je l'ai interviewé, ça m'a étonné. Je me suis dit finalement, il est assez compréhensif. Hein, ou alors, je sais pas si oui, il est compréhensif dans son discours. Il dit, c'est évident. Que c'est notre modèle de communication, notre mode de communication entre classes, entre personnes, qui fait que Bernard Arnault peut être taxé par toi, Pierre, de psychopathe. Et peut-être qu'il n'est pas du tout psychopathe, en fait, il est juste dans son monde. Et il y a cet échec. Et l'action que propose le film doit permettre de dépasser cet échec. Et si ça permet pas de réveiller Bernard Arnault, ça nous réveillera au moins nous, classe populaire, classe moyenne, petite bourgeoisie, et ça nous fera communiquer entre nous. Peut-être c'est ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a frappé, Bismuth.
Oui. Et si, c'est ce qu'on comprend, hein, effectivement. C'est-à-dire cette idée que, enfin, quand il met en balance petite bourgeoisie, classe populaire, face à ce qu'il appelle l'oligarchie. Mais moi, j'avais une question plutôt. C'est est-ce que parce qu'on voit que des fois il est ironique au tout début,
oui,
il est très ironique. Est-ce que il y a encore la pensée chez François Ruffin d'une possibilité d'un dialogue avec ces personnages? Vous demandez à Monsieur Fibien s'il y a Bernard Arnault, qu'est-ce que vous lui direz? Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose à ces personnes-là? Enfin, je crois que c'est une vraie question. C'est-à-dire, cette personne-là moi, je pense qu'elle est autant enfermée que les classes populaires peuvent l'être. C'est-à-dire que cette personne-là, effectivement, elle a certainement un grand pouvoir dans son entreprise, enfin, dans le groupe...
LVMH.
Voilà,
machin.
Et pas que, hein, la presse aussi. Hein.
Oui. François Ruffin parlait des publicités, effectivement, qui sont un moyen de financement pour... Il évoquait le cas de Libération. Mais je pense que cette personne-là, elle a aussi tout autour d'elle des personnes qui exercent une pression sur elle. Je ne suis pas en train de dire c'est pas sa faute, parce qu'on est toujours... Enfin, il pourrait se mettre à dos tous les gens de son entourage en disant « Mais non, mais en fait, j'ai envie d'être intègre, de réintégrer un discours social, etc. » Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que il faudrait pas aussi essayer de chercher, non pas dire « Il n'y a qu'une figure », mais quelles sont les figures autour? Voilà, c'est cet entourage et... prendre à partie aussi cet entourage, pas seulement la figure qui en émerge, qui est le patron, et voilà, ceux qui vont pouvoir exercer aussi une pression. Parce que c'est-à-dire que s'il y a des gens qui, comme dans Libération, ne peuvent pas se permettre de dire tout ce qu'ils pensent, alors qu'ils ont un certain pouvoir, enfin, on parle quand même d'un des médias très forts de France, c'est parce qu'il y a des pressions extérieures, donc qu'il met au jour en disant, bah oui, la publicité, etc. Ben, lui aussi, Bernard Arnault, il doit avoir... tout autour de lui, c'est-à-dire c'est un jeu complexe, je crois, de levier de pouvoir et qu'il faut mettre à jour. C'est pas tant l'individu, je crois, que le levier de pouvoir et dire mais casser ça, enfin c'est ça qu'il faut casser, c'est pas les individus.
Ouais.
Et enfin voilà.
Ah, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Et effectivement, tout à l'heure tu posais la question de savoir l'objectif quoi, ou en tout cas la route qu'on allait prendre, qu'on pourrait prendre après ce film. Moi, c'est vrai que j'ai, même si je suis fan de Fakir, hein, je suis pas non plus aveuglé.
Fanatique.
moi, je trouve qu'un truc qui est absent à Fakir, c'est très personnel, hein, mais ils ont perdu des électeurs à cause de ça. C'est la réforme de la démocratie, telle qu'elle n'existe pas aujourd'hui, en fait. Et il y a un gros travail qui a été fait, notamment par Étienne Chouard. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Chouard.
Économiste, c'est ça?
Je crois qu'il est prof d'éco, mais après... voilà, il a fait un gros travail sur 2005, le référendum pour Maastricht.
Oui, non, enfin, le traité de Lisbonne.
Oui, ça doit être ça, mais pardon. Et puis derrière, il a enchaîné en disant, voilà, la Constitution, c'est un problème pour l'Europe, mais c'est aussi un problème en France. La Constitution devrait être un moyen de contrôler nos élus. Mmh. Et il fait un travail passionnant. Le problème, c'est que son travail, il le partage avec tout le monde, et notamment, j'ai oublié son nom, un copain de Dieudonné, là,
Alain Soral.
Voilà, et notamment avec Alain Soral. Donc là, discrédit, mais pour autant, je veux dire qu'il emmène des gens autour de lui qui eux, ont une vraie réflexion, et puis rien à voir avec Soral. Et moi, c'est le reproche que j'ai envie de faire à Fakir.
Mais c'est parce que Fakir s'est approprié cette théorie de M. Chouard?
Pas du tout. Et même, ils ont refusé de se l'approprier. Parce que Soral, voilà, avait invité Étienne Chouard à discuter de ce sujet-là. Et ce qui est étonnant, alors, j'ai vu, moi, pour avoir tenu le stand de Fakir au Salon Prime Vert, qui tient le week-end prochain, pour avoir tenu ce stand, j'ai vu au moins une personne, ancien lecteur de Fakir, qui est venu me voir en me disant, voilà, moi je lis plus parce que à un moment, Ruffin, il a dénigré ça, quoi. Ce travail que faisait Étienne Choix. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose qui était présent notamment dans le programme du Front de Gauche, il me semble, en 2012.
Oui, la 6ème République.
La 6ème République, voilà. Voilà, je vous apprends rien. Et puis on voit des choses qui apparaissent. Il y avait l'Agora 2017 qui s'est tenue au double mix, là, il y a 15 jours. Il y a des choses comme ça qui vraiment des choses qui vont peut-être converger, il faut le souhaiter, mais des choses qui pourraient réenchanter un peu la politique et que Fakir s'approprie pas. Moi, c'est le reproche que j'aurais à faire à Fakir, et pas que, hein. Mermet sur La Basse et J'y suis, qui est maintenant plus présent à la radio, mais uniquement sur Internet. Oui. C'est pareil, à ce niveau-là, c'est... Moi, je suis allé voir les archives en tapant tirage au sort, en tapant... Putain, j'ai rien trouvé, quoi.
Mais c'est-à-dire, ils mettent pas assez en avant... Non, j'ai pas compris ce que vous disiez, entre le rapport entre Fakir et Mermet.
Eh bien, c'est Fakir et Mermet, c'est...
Oui,
pour moi, c'est des gens qui sont copains. Oui. C'est avec Lordon, tout ça, c'est des. On est sur des gens qui se fréquentent beaucoup. Et ce que je disais aussi bien sur Fakir que sur La Basse, si j'y suis, c'est une discussion, c'est un débat qui n'existe pas par rapport à cette production, mais qui est très forte. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les Gentilvirus.
Non.
C'est des gens depuis une dizaine d'années maintenant qui bossent sur un projet de constitution, sur à quoi pourrait ressembler un système politique vraiment démocratique. Après, il revendique hein, ne pas être sectaire, ne pas être sectaire, être ouvert à tout. Hein, mais
Et la manière de le dire, c'est on est fâché avec tout le monde. C'est ça,
oui, voilà.
C'est paradoxal. Oui, d'accord. Du coup, donc ça, c'était pour la petite critique, mais sur le mode d'action de Fakir, c'est le problème de la politique, où se positionner. La politique, c'est évidemment proposer des sujets de société, une action, mais c'est aussi des rapports entre des partis et des mouvements et de la stratégie. Donc voilà, l'émission touche à sa fin, les chers amis, il est 20h57, il nous reste juste le temps de balancer un petit son de rap, hein, parce que quand même on est dans une émission qui à la base... C'est rap, littérature et révolution. On n'a pas passé un seul son de rap. Alors moi, personnellement, ça me fout mal. On va s'écouter La Secrète Connexion, Partie de Rien. N'oubliez pas d'aller podcaster l'émission sur le blog Arte Radio de Montaigne Was a Thug. N'oubliez pas de rester à l'écoute de la plus rebelle des radios, 102.2 Radio Canu. Et voilà.
Et d'aller voir Merci Patron qui sort demain.
D'aller voir Merci Patron, d'acheter des fakirs, d'envoyer des bisous à Pierre Beneteau et ainsi qu'au chroniqueur très beau qui était là ce soir.
Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises.
On va pas perdre notre temps, moi, ici.
Quoi que t'en dises.
Parti de rien, on va trouver la sortie.
Quoi que t'en dises.
C'est pour tous ceux qui ont pour nous du mépris.
Quoi que t'en dises.
Qu'on lève notre verre avant qu'on se casse d'ici.
Hey, hey. Quoi que t'en dises.
Ça fait un bout de temps qu'on est parti.
Ça fait un bout de temps.
Pas depuis tout le temps.
Le temps s'écoule,
on aura du mal à faire ça coulement.
Je te parle gentiment.
J'attends patiemment.
Mais j'ai pas toute la vie.
J'attendrai pas que les pigeons me chient dessus.
Et même si je suis dessous,
j'attendrai pas après le plan d'issue. Pour dire qu'ici on est souvent déçus par la réussite qui pour l'instant nous a mal reçus. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. On fait notre taf dans ce bif, poseur de bombes sur ce que. On sert des leçons acquises, crache sur le FN et sa convoitise. Paralyse les faux, c'est pas ces cons que nos sons attisent.
Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises.
On persiste et on lâche pas prise.
Quoi que t'en dises.
Les quatre saisons même en période de crise.
Quoi que t'en dises.
Pour l'an 2000 on compte doubler la mise.
Quoi que t'en dises.
On aime poser sans raconter de bêtises.
Hey. Quoi que t'en dises.
Le rap on s'y attache, souvent on s'y fâche.
Mâche
pas les mots pour faciliter la tâche.
Quoi que t'en dises.
On continue sans flamber. On met les choses en place. SIFOIR il reste le plan B.
J'pars pas à part, pas par hasard à part. Aux grandes occasions, genre Mercury demande à Caro. On part de rien et on est sous contrat. On veut bien être correct, mais faut pas que les DA se la contrat.
C'est contre ceux qui nous ralentissent qu'on lance une offensive.
Paraît que nos récits sont corrosifs,
nocifs.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? De toute manière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises.
Ouais, la vie pour nous, c'est pas peinard.
Quoi que t'en dises.
Y'a peu de vernis et peu de
peinard.
Un peu partout, c'est le même
quoi
scénar.
Quoi que t'en dises.
Y'a que des histoires qui nous ont quémas. Hey. Parti hey. De rien, ça fait pas de moi le chien, le toutou. La rue, j'en reviens, j'aimerais lui faire un dernier coucou. La vie est courte, dangereuse et loin d'être parfaite. Ce quotidien me lasse, mais faut minimum 20 barres par tête. À chaque jour sa peine, à chacun son degré de patience. Rien dans les poches poches, ça veut pas dire que ma vie n'a pas de sens. Décadence, mon malheur, est-il le fruit du hasard? Dans le noir, on avance, j'aimerais y voir plus clair dans ce bazar. On se bagarre et on se tape, on se tire dans les pattes et pourtant. On pourrait s'entraider un peu partout, c'est pareil tout le temps. Et tout en faisant mon taf, je mets des baffes aux clichés pesants. Les belles paroles, on n'y croit pas, tu nous la feras pas car on n'a pas deux ans. Secret de connexion, c'est des valises plutôt légères. Les paroles vénères, vu que le rap donne envie de pégère. Et de toute manière, on ne recherche pas le luxe et l'extase. L'important pour nous, esquiver la condition d'esclave. De Barbès, on vient avec l'intention de faire notre trou. L'impression qu'avec rien, si on veut, on arrive à tout. En secret, à 999 plus 1. Coma, Buffa, Bocles, Haroun. Ouais, ouais. Baisse-barre.